Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, toujours encore des histoires, des contes, des légendes. Aujourd'hui, des légendes tirées d'un livre de Henri Gougaud, L'arbre à soleil. Et ces histoires, pourquoi cette sélection? C'est en quelque sorte pour saluer. Je sais que cette émission sera rediffusée et qu'il ne faut pas parler trop d'actualité, je le sais, mais néanmoins, on peut saluer le départ d'un grand ami de la France, le départ pour une destination inconnue de notre ami, grand ami Ben Ali. C'était un dictateur, comme beaucoup de grands amis de la France, et les dictateurs ont ceci de particulier que ce sont souvent des grippe-sous. Eh bien, la première histoire est une histoire moyen-orientale d'un grippe-sous fameux, Abou Kassem. Et ce sont aussi, ça c'est pas propre aux dictateurs, hein, c'est peut-être propre aux chefs d'État, mais il faut pas trop généraliser, ce sont aussi des menteurs. Eh bien, la deuxième histoire est celle, elle nous vient du Maghreb, et c'est l'histoire d'un fameux menteur. Notons que ces deux personnages, dans les histoires que je vais conter, ont quand même trouvé le chemin de la rédemption. Ils se sont rachetés, en quelque sorte. Donc voilà tous les amis de la France qui sont encore en poste et qui vont devoir un jour, devant la fureur populaire, plier bagages, partir la queue entre les jambes avec leur sac d'or, mais qui ne s'inquiètent pas, eux aussi peut-être seront rachetés. Pour l'heure, embarquons-nous dans des histoires étonnantes. La première, donc, les babouches d'Abou Kassem, et la deuxième, Achachi le menteur. Autrefois, à Bagdad, vécut un fameux marchand nommé Abou Kassem. Il était la plus parfaite caricature d'avare, de mesquin, de grigou que l'on puisse imaginer. Il était très riche, mais, et surtout, il ne voulait pas que cela se sache. Il y a des gens ainsi qui jouent volontiers les misérables devant leur buffet bourré d'or. Abou Kassem était de ceux-là. Mais ce qui le distinguait des drôles de son espèce et qui avait fait de lui le plus pittoresque de tous les grippe-sous de Bagdad, c'était ses babouches. Même le mendiant le plus loqueteux d'Arabie aurait eu honte de tomber mort chaussé de babouches pareilles, tant elles étaient sales, mille fois rapetassées, informes, répugnantes. Or, un jour, Abou Kassem, au bazar de Bagdad, réussit un coup de maître. À un négociant en faillite, il achète pour une bouchée de pain tout un assortiment de fioles de cristal et un stock d'essence de rose. Il compte bien, évidemment, revendre au détail les flacons d'essence de rose 10 fois plus cher qu'il ne les a payés. À Bagdad, en ces temps-là, n'importe quel honnête marchand, pour fêter cette bonne affaire, aurait offert un petit banquet à ses relations. Abou Kassem, lui, ne songe pas un instant à pareille folie, mais décide tout de même de célébrer l'événement. « Au diable l'avarice, se dit-il, je vais aller prendre un bain. » Majestueux comme un roi de la cloche, il entre donc dans le plus bel établissement de bain de Bagdad où il n'a jamais encore mis les pieds. Il se déshabille, au vestiaire commun, il aligne ses ignobles babouches à côté de celles des autres clients et se laisse aller aux délices du bain chaud. Puis, parfumé, rasé de frais, il retourne au vestiaire pour se rhabiller. Là, il ne retrouve plus ses babouches. À la place où il les a laissées, il en découvre d'autres, magnifiques, qui sentent bon le cuir neuf. Tiens, un de mes amis a sans doute voulu me faire un cadeau. Quelle aimable attention ! Abou Kassem, tout réjoui, chausse les babouches neuves et s'en va. Or, le juge du tribunal de Bagdad sort derrière lui de son bain, cherche partout ses chaussures et ne les trouve pas. À la place, il découvre d'abominables godasses qu'il reconnaît aussitôt. Ce sont celles d'Abou Kassem. Il n'y a pas deux paires pareilles dans Bagdad. Au pied d'Abou Kassem, on découvre les babouches du juge. Le pauvre bougre avait cru qu'on lui avait fait un cadeau. Il s'était trompé de savate. Mais pour le juge, l'affaire est claire. Abou Kassem est coupable de vol. Il le condamne à payer une amende colossale. Abou Kassem paie. Que peut-il faire d'autre? Et on lui rend ses vieilles savates. Mais du coup, il ne peut plus les supporter. Il rentre chez lui, fou de rage, et les jette par la fenêtre. Elles tombent dans le fleuve, dont les eaux boueuses roulent au pied de sa maison. Et quelques jours plus tard, elles s'empêtrent dans le filet d'un pêcheur. Ce pêcheur aussitôt les reconnaît, tant elles sont célèbres. Il prend ses débris dégoulinants et de la ruelle les lance par la fenêtre ouverte d'Abou Kassem. Le malheur veut qu'elle tombe sur la table, où justement le pauvre homme est en train de remplir d'essence de rose les flacons de cristal qu'il a achetés à si bon compte. Les flacons, le parfum et les godasses se répandent sur le carrelage en un lamentable magma d'éclats de verre mêlés de boue. Abou Kassem s'arrache la barbe en poussant des cris d'écorchés vifs. Ils viennent de perdre là une petite fortune par la faute de ces misérables babouches. Il les empoigne et va au bout de son jardin, creuse un grand trou, les enfouit, rebouche le trou. Un coup de talon sur le tas de terre, voilà. Maintenant, elles sont mortes et enterrées, ces godasses de malheur. Elles ne me tourmenteront plus. Hélas, le voisin d'Abou Kassem l'a vu creuser comme un forcené au fond de son jardin. Et cela lui semble bizarre. Ce vieil avare aurait-il découvert un trésor que je n'en serais pas étonné? Or, tout ce que trouve un chercheur de trésor appartient de droit au calife de Bagdad. La loi est ainsi faite. Le voisin court chez le juge et dénonce Abou Kassem. Abou Kassem est convoqué devant le tribunal. « Ce sont mes babouches que j'ai enterrées !» dit-il piteusement. Un énorme éclat de rire secoue l'assemblée. C'est invraisemblable. Personne ne croit pareille sornette. Inutile de vérifier ce qu'il cache au fond de son jardin. On sait, un trésor. Abou Kassem est condamné à une amende telle qu'il en tombe sur les genoux. Il se relève enfin après longtemps de lamentation et va déterrer ses babouches. Les fourre dans un sac, sort de Bagdad, le sac sur son épaule et jette le tout en pleine campagne dans un étang. Et hélas, deux fois hélas, cet étang est le réservoir d'eau de la ville de Bagdad. Les babouches entraînées dans un tourbillon s'engouffrent dans un conduit et le bouchent. Les babouches bouchent. Les ouvriers chargés de réparer les dégâts trouvent les sandales, les reconnaissent. Abou Kassem aussitôt est accusé de pollution des eaux et doit payer une nouvelle amende. Et cette fois, il est ruiné. Mais on lui rend ses babouches. Alors, écumant, comme un enragé, il décide de les brûler. Il rentre chez lui, les met à sécher sur son balcon avant de les jeter au feu. Hélas, trois fois hélas, un chien joue sur ce balcon, il bouscule une sandale qui tombe dans la rue juste sur la tête d'une femme enceinte. Et du coup, la voilà prise de convulsions, elle fait une fausse couche. Son mari se précipite chez le juge, accuse Abou Kassem qui pour payer l'amende est obligé de vendre sa maison, son dernier bien. Mais cette fois, devant le tribunal, le bonhomme rit comme un innocent. Mes babouches, je vous les donne. Je vous en fais cadeau. Voilà. Non, 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 ne me remerciez pas. Maintenant, parce qu'il est démuni de tout, son cœur est enfin paisible. On ne peut plus rien lui prendre. Il n'a donc plus rien à redouter. Il est libre. Merci, infâme godasse, dit-il. Et il s'en va, pieds nus, en plein soleil. Achachi, le menteur. Il était une fois, au bord des dunes brunes du Sahara, sous le soleil éclatant, une cité blanche à l'ombre des palmiers. Dans cette cité vivait un homme nommé Achachi. C'était l'un des plus fameux personnages de la ville. Il était fort connu, surtout des enfants et des vagabonds qui lui faisaient escorte dans les ruelles du souk. Achachi aimait bien les enfants. Il était parmi eux une sorte de roi en guenille. Il régnait par la parole. Eh oui, il racontait, à qui voulait l'entendre, sa vie imaginaire, ses exploits mirifiques, ses aventures héroïques, ses énormes combats. Achachi, pourtant, était plutôt fluet. Il avait l'air d'un grand oiseau déplumé avec ses trois poils au menton, son turban en lambeaux et ses jambes maigres au bout de sa djellaba trop courte. Mais c'était un sacré bon menteur. Il parlait si bien que les gens le croyaient ou faisaient si bien semblant de le croire qu'à la fin, ils étaient persuadés que devant eux paradait un héros de légende. Or, un jour, voilà qu'un lion féroce et gigantesque vient rôder sur les chemins aux portes de la ville. Il ravage les troupeaux, attaque les caravanes. Plus aucun voyageur n'ose s'aventurer dans la campagne. Alors le sultan de la cité fait battre tambour sur les places publiques et le crieur annonce solennellement ceci. Avis à la population. Notre bon sultan donnera sa fille en mariage à celui qui délivrera le pays de ce lion des sables qui ravage nos troupeaux. Aussitôt, les plus fringants jeunes gens du peuple affûtent leurs sabres, Sellent leurs chevaux et s'en vont fièrement parmi les sonneries de trompettes et les cris guerriers de la foule. Hélas, seul un cheval au flanc déchiré revient le lendemain s'effondrer au pied des murailles. Toute la nuit, les chants funèbres s'élèvent vers la lune. Le lion a bel et bien dévoré la fine fleur de la jeunesse de la ville. Alors, le sultan convoque devant lui le fameux Achachi, dont il connaît les fabuleuses histoires. On lui a si souvent parlé de ce héros en haillons qu'il croit en sa puissance. Il lui dit « Toi seul peux nous délivrer de ce monstre. Je te donne l'ordre d'aller le combattre. Et tu ne peux refuser, car si tu n'obéis pas, je te ferai trancher la tête. » Achachi, le menteur, s'incline, sort du palais au grand soleil, environné d'une meute d'enfants triomphants. Ses jambes tremblent et sa barbiche aussi. Sa gorge est nouée. Il rentre chez lui, s'enferme dans sa cabane délabrée et réfléchit. Il n'a qu'un âne pour toute monture. Son sabre est en bois, c'est un bâton noueux. Il se dit « L'art du sage, c'est l'art de la fuite. » Avec un peu de chance, le lion oubliera de me voir et je pourrai me réfugier dans une ville plus hospitalière. Il fait quelques provisions de boulettes de viande mélangées à du kif. C'est ce qu'il mange habituellement pour se donner l'inspiration lorsqu'il raconte ses exploits. Et il s'en va comme un vagabond anonyme, son baluchon sur l'épaule. À peine les murailles de la ville ont-elles disparu derrière une dune, que voilà le lion. Il trottine tranquillement le soleil dans le dos. Il vient vers Achachi, flairant là une proie facile. Achachi, le voyant, pousse un hurlement de terreur, tourne la tête à droite, à gauche, aperçoit un palmier bien planté sur le sable. Alors il court comme un dératé et grimpe à l'arbre. Le lion vient frotter son échine contre l'écorce, puis il s'installe à son pied, à l'ombre. Achachi, dans les branches, fait une prière fiévreuse, qui ne dérange guère le fauve. 2 heures passent. Le pauvre homme commence à se sentir ankylosé là-haut. Il se dit que peut-être il pourrait manger un peu de ces boulettes de viande pour se donner du courage. Et le voilà qui essaye de les attraper, de les mettre à la bouche, mais aller le faire en tenant le tronc d'un palmier, le voilà qui lâche tout, toutes ses provisions sur le museau du lion. L'autre flaire cette bonne viande grillée qui lui tombe du ciel et, oup, il l'engloutit tranquillement jusqu'à la dernière boulette.
Et puis, il bâille puissamment, fait 3 pas titubant et tombe, le museau dans le sable.
Et aussitôt se met à ronfler, tellement ivre de kiff qu'il rêve d'éléphants bleus. Achachi, aussitôt, dégringole de son perchoir et commence à s'éloigner sur la pointe des pieds. Et puis, il se ravise. Après tout, se dit-il, tant qu'il plane dans les béatitudes de l'ivresse, ce lion est à ma merci. Il faut en profiter. Il vient alors à pas menus tapoter affectueusement la croupe du monstre
qui se réveille à peine, se dresse péniblement sur ses énormes pattes.
Achachi grimpe sur son dos et le guidant à coups de talon, comme un âne, le voilà qui part vers la ville en chantant faux une berceuse un peu tremblante. On l'accueille comme un prophète, chevauchant son lion somnolent que le sultan fait aussitôt enchaîner dans ses caves, avant de donner sa fille en mariage au glorieux Achachi. On dit que le jour de ses noces, Achachi le menteur raconta si bien son combat contre le fauve gigantesque que ses paroles s'inscrivirent d'elles-mêmes en images multicolores sur les murs et que le soleil s'arrêta 3 jours entiers devant les fenêtres du palais pour l'écouter.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتقول ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Les contes, ce sont des contes traditionnels du Moyen-Orient et du Maghreb, mais d'après la version d'Henri Gougaud dans L'Arbre à Soleil, légende du monde entier aux éditions Seuil. Et les musiques, eh bien c'était du oud. Oui, enfin, c'est vrai, il y avait du oud, mais c'est un duo qui s'appelle du oud, violon oud. Et puis vous avez reconnu Yaraya de Daman El Arachi. Et puis aussi l'ensemble Al-Kindi dans Soufi Soul. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.